Chapitre 7. Médée, ce que voulait la reine, le régiment de Flandre, le banquet des gardes. Un peu de calme avait succédé dans Versailles aux terribles agitations morales et politiques que nous venons de mettre sous les yeux de nos lecteurs. Le roi respirait, et tout en songeant parfois à ce que son orgueil bourbonien avait eu à souffrir dans ce voyage de Paris, il s'en consolait à l'idée de sa popularité reconquise. Pendant ce temps, M. Necker organisait et perdait tout doucement la sienne. Quant à la noblesse, elle commençait à préparer sa défection ou sa résistance. Le peuple veillait et attendait. Pendant ce temps, la reine, repliée sur elle-même, assurée qu'elle était le point de mire de toutes les haines, se faisait bien petite, elle se dissimulait, car elle savait encore que tout en étant le point de mire de beaucoup de haines, elle était en même temps le but de bien des espérances. Depuis le voyage du roi à Paris, à peine avait-elle revu Gilbert. Une fois d'ailleurs, il s'était offert à elle dans le vestibule qui conduisait à l'appartement du roi. Et là, comme il la saluait profondément, elle avait la première commencé la conversation. « Bonjour, monsieur », avait-elle dit, « vous allez chez le roi ?» Puis elle l'avait ajouté avec un sourire où perçait une teinte d'ironie, « Est-ce comme conseiller ou comme médecin ?» C'est comme médecin, madame, répondit Gilbert. J'ai aujourd'hui service indiqué. Elle fit signe à Gilbert de le suivre. Gilbert obéit. Tous deux entrèrent dans un petit salon qui précédait la chambre du roi. Eh bien, monsieur, dit-elle, voyez bien que vous me trompiez lorsque, l'autre jour, à propos de ce voyage à Paris, vous m'assuriez que le roi ne courait aucun danger. Moi, madame, reprit Gilbert, étonné. « Sans doute. N'a-t-on pas tiré sur sa majesté ?»« Qui dit cela, madame ?»« Tout le monde, monsieur, et surtout ceux qui ont vu tomber la pauvre femme presque sous les roues de la voiture du roi. »« Qui dit cela, monsieur Beauvau, monsieur Destin, qui ont vu votre habit déchiré, votre jabot troué ?»« Madame, la balle qui vous a effleuré, monsieur, cette balle pouvait bien tuer le roi, comme elle a tué cette pauvre femme, car enfin, ce n'était ni vous, ni cette pauvre femme que voulaient tuer les meurtriers. « Je ne crois pas à un crime, madame, » dit Gilbert, hésitant. « Soit, mais moi j'y crois, monsieur, » dit la reine en regardant Gilbert fixement. « En tout cas, s'il y a crime, il ne faut pas l'imputer au peuple. » La reine fixa plus profondément son regard sur Gilbert. « Ah, dit-elle, et à quoi faut-il l'attribuer ? Dites !»« Madame, continua Gilbert en secouant la tête, depuis quelque temps je vois et j'étudie le peuple. Eh bien, le peuple, quand il assassine en temps de révolution, le peuple tue avec ses mains. Il est alors le tigre en fureur, le lion irrité. Le tigre et le lion ne prennent pas d'intermédiaire, d'agent entre la force et la victime. Il tue pour tuer, il répand le sang pour le répandre. Il aime à y teindre sa dent, à y tremper sa griffe. Témoin Foulon et Berthier, n'est-ce pas? Mais Flessel n'a-t-il pas été tué d'un coup de pistolet? Je l'ai entendu dire, du moins. Mais, après tout, continua la reine avec ironie, peut-être n'est-ce pas vrai, nous sommes tellement entourés de flatteurs, nous autres, têtes couronnées. Gilbert, à son tour, regarda fixement la reine. « Oh, celui-là, dit-il, vous ne croyez pas plus que moi, madame, que ce soit le peuple qui l'ait tué. Celui-là, il y avait des gens intéressés à ce qu'il mourût. » La reine réfléchit. « Oh, dit-elle, c'est possible. » Alors, fit Gilbert en s'inclinant comme pour demander à la reine si elle avait encore autre chose à lui dire. « Je comprends, monsieur, » fit la reine, en arrêtant doucement le docteur d'un geste presque amical. « Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous dire que vous ne sauverez jamais le roi aussi réellement avec votre science que vous l'avez sauvé il y a 3 jours avec votre poitrine. » Gilbert s'inclina une seconde fois, mais il vit que la reine restait, il resta. « J'aurais dû vous revoir, monsieur, » dit la reine, après une pause d'un instant. « Votre majesté n'avait plus besoin de moi, » dit Gilbert. « Vous êtes modeste. »« Je ne voudrais pas l'être, madame. »« Pourquoi ? Parce que, étant moins modeste, je serai moins timide et par conséquent plus propre à servir mes amis ou à nuire à des ennemis. Pourquoi dites-vous mes amis et ne dites-vous pas mes ennemis? Parce que je n'ai pas d'ennemis, ou plutôt parce que je ne veux pas reconnaître que j'en ai, de mon côté du moins. La reine le regarda surprise. Je veux dire, continua Gilbert, que ceux-là seuls sont mes ennemis qui me haïssent, mais que moi, je ne hais personne. Parce que je n'aime plus personne, madame. Êtes-vous ambitieux, monsieur Gilbert? J'ai un instant espéré le devenir, madame. Et cette passion a avorté dans mon cœur comme toutes les autres. Il vous en reste une, cependant, dit la reine avec une sorte de finesse ironique. Moi, madame, et laquelle, bon Dieu? Le patriotisme. Gilbert s'inclina. Oh, cela est vrai, dit-il. J'adore ma patrie et je lui ferai tous les sacrifices. Hélas, dit la reine avec un charme de mélancolie indéfinissable, il y eut un temps où jamais un bon français n'eût exprimé cette pensée dans les termes que vous venez d'employer. Que veut dire la reine? Demanda respectueusement Gilbert. Je veux dire, monsieur, que dans ce temps dont je parle, il était impossible d'aimer sa patrie sans aimer en même temps sa reine et son roi. Gilbert rougit, s'inclina et sentit à son cœur comme un choc de cette électricité que, dans les séduisantes intimités, dégageait la reine. « Vous ne répondez pas, monsieur, dit-elle. « Madame, fit Gilbert, j'ose me vanter d'aimer la monarchie plus que personne. Sommes-nous dans un temps, monsieur, où il suffise de dire et ne vaudrait-il pas mieux faire? Mais, madame, dit Gilbert, surpris, je prie votre majesté de croire que tout se coordonnera, le roi ou la reine, vous le ferez, n'est-ce pas? Assurément, madame. Ce que faisant, monsieur, dit la reine, en reprenant malgré elle un peu de sa hauteur ordinaire, vous aurez rempli seulement un devoir, madame. Dieu qui a donné l'omnipotence au roi, continua Marie-Antoinette, les a dégagés de l'obligation d'être reconnaissants envers ceux qui remplissent seulement un devoir. Hélas, hélas, madame, répliqua à son tour Gilbert, le temps approche où vos serviteurs mériteront plus que votre reconnaissance s'ils veulent seulement faire leur devoir. Que ça dire, monsieur? C'est-à-dire, madame, que dans ces jours de désordre et de démolition, vous chercherez vainement des amis là où vous êtes accoutumée à trouver des serviteurs. Priez Dieu, madame, de vous envoyer d'autres serviteurs, d'autres soutiens, d'autres amis que ceux que vous avez. En connaissez-vous? Oui, madame. Alors indiquez-les. Tenez, madame, moi qui vous parle, hier, j'étais votre ennemi. Mon ennemi? Et pourquoi cela? Parce que vous me faisiez emprisonner. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, madame, dit Gilbert en s'inclinant, je suis votre serviteur. Et le but? Madame, le but dans lequel vous êtes devenu mon serviteur? Il n'est pas dans votre nature, monsieur, de changer aussi promptement d'avis, de croyance ou d'affection. Vous êtes un homme profond dans les souvenirs, monsieur Gilbert, vous qui savez faire durer vos vengeances. Mais dites-moi le but de votre changement. Madame, vous m'avez reproché tout à l'heure d'aimer trop ma patrie. On ne l'aime jamais trop, monsieur. Il s'agit seulement de savoir comment on l'aime. Moi, je l'aime, ma patrie. Gilbert sourit. Oh, pas de fausse interprétation, monsieur. Ma patrie, c'est la France. Je l'ai adoptée. Allemande par le sang, je suis française par le cœur. J'aime la France, mais je l'aime par le roi. Je l'aime par le respect dû à Dieu qui nous a sacrés. À vous, maintenant. À moi, madame. Oui, à vous. Je comprends, n'est-ce pas, vous, ce n'est pas la même chose. Vous aimez la France purement et simplement pour la France. Madame, répondit Gilbert en s'inclinant, je manquerai de respect à votre majesté en manquant de franchise. Oh, s'écria la reine, affreuse, affreuse époque où tous ces gens qui se prétendent honnêtes isolent deux choses qui ne se sont jamais quittées, deux principes qui ont toujours marché ensemble, la France et son roi. Mais n'avez-vous pas une tragédie d'un de vos poètes où l'on demande à une reine abandonnée de tous, que vous reste-t-il, et où elle répond, moi, eh bien moi, je suis comme Médée, je me reste et nous verrons. Et elle passa courroucée, laissant Gilbert dans la stupeur. Elle venait d'ouvrir devant lui, par le souffle de sa colère, un coin de ce voile derrière lequel s'élaborait toute l'œuvre de la contre-révolution. « Allons, se dit Gilbert en entrant chez le roi, la reine médite un projet. « Allons, se dit la reine en regagnant son appartement. Décidément, il n'y a rien à faire de cet homme. Il a la force, il n'a pas le dévouement. » Pauvre prince, chez lesquels le mot dévouement est un synonyme du mot servilité. Gilbert revint chez M. Necker après avoir vu le roi aussi tranquille qu'il avait vu la reine agitée. Le roi faisait des périodes, le roi bâtissait des comptes, le roi méditait des réformes aux lois. Cet homme de bonne volonté, au regard doux et à l'âme droite, dont le cœur, lorsqu'il fut faussé, le fut par des préjugés inhérents à la condition royale, cet homme s'obstinait à reconquérir des futilités en échange des choses capitales qu'on lui enlevait. Il s'obstinait à percer l'horizon de son regard myope quand l'abîme était là, béant sous ses pieds. Cet homme inspirait une profonde pitié à Gilbert. Quant à la reine, il n'en était pas ainsi, et malgré son impassibilité, Gilbert sentait qu'elle était une de ces femmes qu'il faut aimer passionnément ou haïr à la mort. Rentrée chez elle, Marie-Antoinette sentit comme un poids immense qui venait s'abattre sur son cœur. Et en effet, ni comme femme, ni comme reine, elle n'avait rien de solide autour d'elle, rien qui l'aidât à supporter une part de ce fardeau qui l'écrasait. De quelque côté qu'elle tourna les yeux, il lui semblait voir une hésitation ou un doute. Les courtisans, inquiets pour leur fortune et réalisant, les parents et les amis, songeant à l'exil. La femme la plus fière, Andrée, s'éloignant peu à peu de corps et de cœur. L'homme le plus noble et le plus chéri de tous, Charny, blessé par quelques caprices et en proie au doute. Cette situation l'inquiétait, elle, l'instinct et la sagacité même. Comment cet homme pur, comment ce cœur sans alliage, avait-il tout à coup changé? Non, il n'a pas encore changé, se disait en soupirant la reine. Il va changer. Conviction effrayante pour la femme qui aime avec passion, insupportable pour la femme qui aime avec orgueil. Or, la reine aimait à la fois Charny avec passion, et avec orgueil. La reine souffrait donc par deux blessures, et cependant, au moment où elle était arrivée, au moment où elle venait de s'apercevoir du mal qu'elle avait fait, du tort qu'elle avait eu, il était encore temps de le réparer. Mais ce n'était pas un esprit souple que celui de cette femme couronnée. Elle ne pouvait se décider à fléchir, même dans l'injustice. Peut-être, en face d'un indifférent, eût-elle montré ou voulu montrer de la grandeur d'âme, et alors peut-être eût-elle demandé pardon. Mais à celui qu'elle avait honoré d'une affection à la fois si vive et si pure, à celui qu'avait daigné faire entrer en participation de ses plus secrètes pensées, la reine ne pensait pas qu'elle dût faire la moindre concession. Le malheur des reines qui descendent à aimer un sujet, c'est de l'aimer toujours en reine, jamais en femme. Celle-ci s'estimait à un si haut prix qu'elle croyait que rien d'humain ne pouvait payer son amour, pas même le sang, pas même les larmes. Du moment où elle s'était sentie jalouse d'Andrée, elle avait commencé à diminuer moralement. Suite de cette infériorité, ses caprices, la colère. Suite enfin de la colère, les mauvaises pensées qui conduisent après elles les mauvaises actions. Charny ne se rendait compte en rien de tout ce que nous venons de dire, mais il était homme et il avait compris que Marie-Antoinette était jalouse, et jalouse injustement de sa femme que lui n'avait jamais regardée. Rien ne révolte cœur droit et incapable de trahison comme de voir qu'on le croit capable de trahir. Rien n'est propre à attirer l'attention sur quelqu'un que la jalousie dont ce quelqu'un est honoré, surtout si cette jalousie est injuste. Alors celui qu'on soupçonne réfléchit, il regarde alternativement le cœur jaloux et la personne jalouse. Plus l'âme du jaloux est grande, plus le danger dans lequel il se jette est grand. En effet, comment supposer qu'un grand cœur, une intelligence élevée, un orgueil légitime, comment supposer que tout cela s'inquiéterait pour rien ou pour peu de choses? Pourquoi la femme belle serait-elle jalouse? Pourquoi la femme puissante serait-elle jalouse? Pourquoi la femme spirituelle serait-elle jalouse? Comment supposer que tout cela s'inquiéterait pour rien ou pour peu de choses? Le jaloux n'est rien d'autre que le limier qui dépiste pour autrui les mérites que l'indifférent chasseur n'avait point aperçus en cheminant. Charny savait que mademoiselle André de Tavernay était une ancienne amie de la reine, toujours bien traitée autrefois, toujours préférée. Pourquoi Marie-Antoinette ne l'aimait-elle plus? Pourquoi Marie-Antoinette en était-elle jalouse? Elle avait donc surpris quelques mystérieux secrets de beauté que lui, Charny, n'avait pas découvert, sans doute parce qu'il n'avait pas cherché. Elle avait donc senti que Charny pouvait regarder cette femme et qu'elle perdrait, elle, quelque chose à ce que Charny la regardât. Ou bien encore avait-elle cru s'apercevoir que Charny l'aima moins, sans qu'une cause extérieure eût diminué cet amour. Rien de plus fatal au jaloux que cette connaissance qu'ils donnent à autrui de la tempérance de ce cœur qu'ils tiennent à garder dans sa chaleur la plus intense. Combien de fois arrive-t-il que l'objet est informé par des reproches sur sa froideur, de la froideur qu'il commençait d'éprouver sans s'en rendre compte? Et quand il voit cela, quand il sent la vérité du reproche, dites, madame, combien de fois avez-vous vu qu'il se laisse ramener? Combien de fois rallume-t-il la flamme languissante? Oh, maladresse des amants! Il est vrai que là où il y a beaucoup d'adresse, il n'y a presque jamais assez d'amour. Marie-Antoinette avait donc appris elle-même à Charny, par ses colères et ses injustices, qu'il avait un peu moins d'amour au fond de son cœur, et sitôt qu'il le sut, il chercha la cause en regardant autour de lui, et sous le regard il trouva tout naturellement la cause de la jalousie de la reine. André, la pauvre André délaissée, épouse sans être femme. Il plaignit André. La scène du retour de Paris lui avait découvert ce profond secret de jalousie caché à tous les yeux. Elle aussi, la reine, elle vit que tout était découvert, et comme elle ne voulait pas fléchir devant Charny, elle employa un autre moyen qui, à son avis, devait la conduire au même but. Elle se remit à bien traiter André, elle l'admit à toutes ses promenades, à toutes ses veillées, elle la combla de caresses, elle la rendit l'envie de toutes les autres femmes, et André se laissa faire avec étonnement, mais sans reconnaissance. Elle s'était dit depuis longtemps qu'elle appartenait à la reine, que la reine pouvait faire d'elle ce qu'elle voudrait, et elle se laissait faire. En revanche, comme il fallait que l'irritation de la femme tombât sur quelqu'un, la reine commença de maltraiter fort Charny. Elle ne lui parlait plus, elle le rudoyait. Elle affectait de passer des soirées, des jours, des semaines, sans remarquer qu'il fût présent. Seulement, dès qu'il était absent, le cœur de la pauvre femme se gonflait, ses yeux erraient avec inquiétude, cherchant celui dont il se détournait dès qu'il pouvait l'apercevoir. Avait-elle besoin d'un bras? Avait-elle un ordre à donner? Avait-elle un sourire à perdre? C'était pour le premier venu. Ce premier venu ne manquait jamais, au reste, d'être un homme beau et distingué. La reine croyait se guérir de sa blessure en blessant Charny. Celui-ci souffrait et se taisait. C'était un homme puissant sur lui-même. Pas un mouvement de colère ou d'impatience ne lui échappait pendant ces affreuses tortures. On vit alors un curieux spectacle, un spectacle qu'il n'était donné qu'aux femmes de fournir et de comprendre. André sentit tout ce que souffrait son mari, et comme elle l'aimait de cet amour angélique qui n'avait jamais conçu une espérance, elle le plaignit et le lui témoigna. Et résulta de cette compassion un doux et miséricordieux rapprochement. Elle tenta de consoler Charny, sans lui laisser voir qu'elle comprit ce besoin de consolation qu'il avait, et tout cela se faisait avec cette délicatesse qu'on pourrait appeler féminine, attendu que les femmes seules en sont capables. Marie-Antoinette, qui cherchait à diviser pour régner, s'aperçut qu'elle avait fait fausse route et qu'elle rapprochait, sans le vouloir, des âmes qu'elle eût voulu séparer par des moyens bien différents. Elle eut alors, la pauvre femme, dans le silence et la solitude des nuits, de ces désespoirs effrayants qui doivent donner à Dieu une bien haute idée de ses forces, puisqu'il a créé des êtres assez forts pour supporter de pareilles épreuves. Aussi, la reine eut-elle certainement succombé à tant de maux sans la préoccupation de sa politique. Celui-là ne se plaint pas de la dureté de son lit qui a les membres rompus par la fatigue. Telles étaient les circonstances dans lesquelles vécut la reine depuis ce retour du roi à Versailles jusqu'au jour où elle songea sérieusement à reprendre l'exercice absolu de sa puissance. C'est que, dans son orgueil, elle attribuait à sa décadence comme l'espèce de dépréciation que, depuis quelque temps, la femme semblait subir. Pour cet esprit actif, penser, c'était agir. Elle se mit à l'œuvre sans perdre un moment. Hélas, cette œuvre à laquelle elle se mettait, c'était celle de sa perdition. Malheureusement, pour la reine, tous ces faits que nous avons vus étaient des accidents auxquels une main ferme et industrieuse pouvait apporter remède. Il ne s'agissait que de concentrer ses forces. La reine, voyant que les Parisiens s'étaient changés en militaires et paraissaient vouloir faire la guerre, se résolut à leur montrer ce que c'était qu'une guerre véritable. Jusqu'alors, ils ont eu affaire aux invalides de la Bastille, aux Suisses mal soutenus et flottants. On va leur montrer ce que c'est qu'un ou deux bons régiments, bien royalistes et bien instruits. Peut-être y a-t-il quelque part un de ces régiments-là qui déjà ait mis en fuite les émeutes et ait versé le sang dans les convulsions de la guerre civile. On fera venir un de ces régiments, le plus connu. Les Parisiens comprendront alors et ce sera le dernier recours qu'on leur laisse pour leur salut. L'abstention. C'était après toutes les querelles de l'Assemblée ou du roi pour le veto. Le roi avait pendant 2 mois lutté pour ressaisir un lambeau de souveraineté. Il avait, conjointement avec le ministère et Mirabeau, essayé de neutraliser l'élan républicain qui voulait effacer la royauté en France. La reine s'était usée à cette lutte, usée surtout parce qu'elle avait vu le roi succomber. Le roi avait perdu à ce combat tout son pouvoir et le reste de sa popularité. La reine avait gagné un surnom, un sobriquet. Un de ces mots étranges à l'oreille du peuple, ce qui, par là même, caresse l'oreille du peuple. Un nom qui n'était pas encore une injure, mais qui devait devenir la plus sanglante de toutes. Un mot d'esprit qui se changea plus tard en un mot de sang. On l'appelait enfin Madame Veto. Ce nom-là devait aller, porté sur l'aile des chansons révolutionnaires, épouvanter en Allemagne les sujets et les amis de ceux qui, en envoyant à la France une reine allemande, avaient le droit de s'étonner qu'on l'injuriât du nom de l'Autrichienne. Ce nom-là devait accompagner à Paris, dans les rondes insensées, au jour de massacre, les derniers cris, les agonies hideuses des victimes. Marie-Antoinette désormais s'appelait Madame Veto jusqu'au jour où elle s'appellerait la veuve Capet. C'était déjà la 3e fois qu'elle changeait de nom. Après l'avoir appelée l'Autrichienne, on l'avait appelée Madame Déficit. Après les luttes dans lesquelles la reine avait essayé d'intéresser ses amis par l'imminence de leur propre danger, elle avait remarqué seulement que 60 000 passeports avaient été demandés à l'hôtel de ville. 60 000 notables de Paris et de France étaient partis rejoindre à l'étranger les amis et les parents de la reine, exemple bien frappant et qui avait frappé la reine. Aussi ne méditait-elle point autre chose à dater de ce moment qu'une fuite adroitement concertée, qu'une fuite appuyée par la force au besoin, une fuite au bout de laquelle était le salut. Après quoi, les fidèles restés en France pouvaient faire la guerre civile, c'est-à-dire châtier les révolutionnaires. Le plan n'était pas mauvais, il eût réussi, assurément, mais derrière la reine veillait aussi le mauvais génie. Étrange destinée, cette femme qui inspira de si grands dévouements ne rencontra nulle part la discrétion. On sut dans Paris qu'elle voulait fuir avant qu'elle en fût persuadée elle-même. À partir du moment où on le sut, Marie-Antoinette ne s'aperçut pas que son plan était devenu impraticable. Cependant, un régiment fameux par ses sympathies royalistes, le régiment de Flandre, arrivait sur Paris à marche forcée. Ce régiment était demandé par la municipalité de Versailles, qui, excédée par les gardes extraordinaires, par la surveillance obligée autour du château, sans cesse menacée, par les distributions de vivres et les émeutes successives, avait besoin d'une autre force que la garde nationale et les milices. Le château, lui, avait déjà assez de peine à se défendre lui-même. Ce régiment de Flandre arrivait, disons-nous, et pour qu'il prît sur le champ l'autorité dont on cherchait à le revêtir, il fallait qu'un accueil particulier lui attirât l'attention du peuple. L'amiral d'Estaing réunit les officiers de la garde nationale, tous ceux des corps présents à Versailles, et se rendit au-devant de lui. Celui-ci avait fait une entrée solennelle dans Versailles avec ses canons, ses parcs et ses convois. Autour de ce point devenu central viennent se grouper une foule de gentilshommes n'appartenant à aucune arme spéciale. Ils se choisissent entre eux un uniforme pour se reconnaître, se joignent à tous les officiers hors des cadres, à tous les chevaliers de Saint-Louis que le danger ou la prévoyance amènent à Versailles. De là, ils se répandent dans Paris, qui voit alors, avec une stupeur profonde, ses nouveaux ennemis, frais, insolents et gonflés d'un secret qui va leur échapper à l'occasion. Dès ce moment, le roi pouvait partir. Il eût été soutenu, protégé dans son voyage, et peut-être Paris, encore ignorant et mal préparé, l'eût-il laissé partir. Mais ce mauvais génie de l'Autrichienne veillait toujours. Liège se révolta contre l'empereur, et l'occupation que donna cette révolte à l'Autriche empêcha qu'on songeât à la reine de France. Celle-ci, d'ailleurs, crut devoir s'abstenir par délicatesse en un pareil moment. Alors les choses, à qui l'impulsion était donnée, continuèrent de courir avec une foudroyante rapidité. Après l'ovation faite au régiment de Flandre, les gardes du corps décidèrent qu'un dîner serait offert aux officiers de ce régiment. Ce repas, cette fête, fut fixée au 1er octobre. Tout ce qu'il y avait d'important dans la ville y fut invité. De quoi s'agissait-il? De fraterniser avec les soldats de Flandre? Pourquoi des soldats n'eussent-ils point fraternisé entre eux, puisque les districts et les provinces fraternisaient? Est-il défendu par la Constitution que des gentilshommes fraternisassent? Le roi était encore le maître de ses régiments, et le roi commandait seul. Il avait seul la propriété de son château de Versailles. Il avait seul le droit d'y recevoir qui bon lui semblait. Pourquoi n'y est-il pas reçu de braves soldats et de dignes gentilshommes arrivant de Douai, où il s'était bien conduit? Rien de plus naturel, nul ne songeait à s'en étonner, à s'en alarmer, bien moins encore. Ce repas, pris en commun, allait cimenter l'affection que se doivent entre eux tous les corps d'une armée française destinée à défendre à la fois la liberté, la royauté. D'ailleurs, le roi savait-il seulement ce qui était convenu? Depuis les événements, le roi, libre grâce à ses concessions, ne s'occupait plus de rien. On lui avait ôté le fardeau des affaires. Il ne voulait plus régner, puisqu'on régnait pour lui. Mais il ne prétendait pas devoir s'ennuyer tout le jour. Le roi, tandis que messieurs de l'assemblée taillaient et rognaient en fraude, le roi chassait. Le roi, tandis que messieurs les nobles et messieurs les évêques abandonnaient aux quatre roues leurs colombiers et leurs droits féodaux, pigeons et parchemins, le roi, qui voulait bien comme tout le monde faire des sacrifices, abolissait ses capitaineries de chasse, mais il ne cessait pas de chasser pour cela. Or, le roi, tandis que messieurs du régiment de Flandre dîneraient avec les gardes du corps, le roi serait à la chasse, comme tous les jours, la table serait desservie lorsqu'il reviendrait. Cela même le gênait si peu, et il gênait si peu pour cela qu'on résolut à Versailles de demander à la reine le château pour le festin. La reine ne voyait pas de raison pour refuser l'hospitalité aux soldats de Flandre. Elle donna la salle de spectacle dans laquelle, pour ce jour-là, elle permit qu'un plancher fût construit afin que la place fût large pour les soldats et leurs hôtes. Une reine, quand elle donne l'hospitalité à des gentilshommes, la donne entière. Voilà la salle à manger. le salon manquait, la reine donna le salon d'Hercule. Un jeudi, 1er octobre, comme nous l'avons dit, se donna ce festin qui marquera si cruellement dans l'histoire des imprévoyances ou des aveuglements de la royauté. Le roi était à la chasse. La reine était enfermée chez elle, triste, pensive, et décidée à ne pas entendre un seul choc de verre, un seul éclat de voix. Son fils était dans ses bras, André auprès d'elle. Deux femmes travaillaient dans un angle de la chambre, voilà son entourage. Peu à peu entraient au château les officiers brillants, les panaches, les armes fulgurantes. Les chevaux hennissaient au gris des écuries, les fanfares sonnaient, les deux musiques de Flandre et des gardes emplissaient l'air d'harmonie. Au gris de Versailles, une foule pâle, curieuse, sournoisement inquiète, guettait, analysait, commentait, et la joie et les airs. Par bouffées, comme les rafales d'un orage humain, s'exhalaient par les portes ouvertes avec les murmures de la gaieté, les vapeurs de la bonne chère. Il était bien imprudent de faire respirer à ce peuple affamé l'odeur des viandes et du vin, à ce peuple morose la joie et l'espérance. Le festin continuait cependant sans que rien vînt le troubler. Sobre d'abord et plein de respect sous leur uniforme, les officiers avaient causé bas et bu modérément. Pendant le premier quart d'heure, ce fut bien l'exécution du programme tel qu'il avait été arrêté. Le second service parut. Monsieur de Lusignan, colonel du régiment de Flandre, se leva et proposa 4 santé, celle du roi, de la reine, du dauphin et de la famille royale. 4 exclamations, poussées jusqu'aux voûtes, s'en allèrent fugitives frapper l'oreille des tristes spectateurs du dehors. Un officier se leva, peut-être était-ce un homme d'esprit et de courage, un homme de bon sens qui prévoyait l'issue de tout ceci, un homme sincèrement attaché à cette famille royale qu'on venait de fêter si bruyamment. Il comprenait, cet homme, que parmi tous ces toasts, on en oubliait un qui se présenterait brutalement lui-même. Il le proposa la santé de la nation. Un long murmure précéda un long cri. « Non, non !» répondirent en chœur les assistants, et la santé de la nation fut repoussée. Le festin venait de prendre ainsi son véritable sens, le torrent sa véritable pente. On dit encore que celui-là qui venait de proposer ce toast était l'agent provocateur de la manifestation contraire. Quoi qu'il en soit, sa parole eut un fâcheux effet, oublier la nation, passe encore, mais l'insulter. C'était trop. Elle s'en vengea. Comme à partir de ce moment, la glace fut rompue, comme au silence réservé succédèrent les cris et les conversations exaltées, la discipline devenait une chimérique pudeur. On fit entrer les dragons, les grenadiers, les sangs suisses, tout ce qu'il y avait de simples soldats au château. Le vin circula, on remplit 10 fois les verres, le dessert apparut, il fut pillé, l'ivresse était générale, les soldats oubliaient qu'ils trinquaient avec leurs officiers, c'était réellement une fête fraternelle. Puis on cria « Vive le roi, vive la reine !» Tant de fleurs, tant de lumière, tant de feu irisant les voûtes dorées, tant de joyeuses idées illuminant les fronts, tant d'éclairs loyaux jaillissant du front de ces braves. C'était un spectacle qui eût été bien doux à voir pour la reine, bien rassurant à voir pour le roi. Ce roi si malheureux, cette reine si triste, que n'assistait-il à une pareille fête? D'officieux serviteurs se détachent, courent chez Marie-Antoinette, lui racontent, lui exagèrent ce qu'ils ont vu. Alors l'œil éteint de la femme se ranime, elle se soulève, il y a donc encore de la loyauté, de l'affection dans les cœurs français, il y a donc encore de l'espoir. La reine jette autour d'elle un regard morne, désolé. À cette porte commence à circuler le monde des serviteurs. On prie, on conjure la reine de faire visite, rien qu'une apparition dans ce festin où 2000 enthousiastes consacrent par leur vivat le culte de la monarchie. « Le roi est absent, » dit tristement, « je ne puis aller seul. »« Avec monsieur le dauphin, » disent quelques imprudents qui insistent. « Madame, madame, » dit une voix à son oreille, « restez ici, je vous en conjure, restez. » Elle se retourne, c'était monsieur de Charny. « Quoi, » dit-elle, « vous n'êtes pas en bas avec tous ces messieurs ?» Je suis revenu, madame, il y a en bas une exaltation dont les suites peuvent nuire plus qu'on ne croit à votre majesté. Marie-Antoinette était dans un de ses jours de bouderie, de caprice. Elle tenait ce jour-là précisément à faire le contraire de ce qui eût plu à Charny. Elle lança au comte un regard de dédain et s'apprêtait à lui répondre quelques désobligeantes paroles lorsque, l'arrêtant d'un geste respectueux, « Par grâce, dit-il, madame, attendez au moins le conseil du roi. » Il croyait gagner du temps. « Le roi, le roi !» s'écrièrent plusieurs voix. « Sa majesté revient de la chasse !» C'était vrai. Marie-Antoinette se lève, court à la rencontre du roi, encore botté, tout poudreux. « Ah, monsieur !» lui dit-elle, « il y a en bas un spectacle digne du roi de France. Hein, venez, venez !» Et elle lui prend le bras. Elle l'entraîne sans regarder Charny, qui enfonce dans sa poitrine des ongles furieux. Son fils à la main gauche, elle descend. Tout un flot de courtisans la précède et la pousse. Elle arrive aux portes de la salle de l'opéra dans le moment où, pour la 20e fois, les verres se vidaient au cri de « Vive le roi! Vive la reine !» Au moment où la reine parut avec le roi et son fils sur le plancher de l'opéra, une immense acclamation, pareille à l'explosion d'une mine, se fit entendre du banquet aux loges. Les soldats enivrés, les officiers délirants, levaient leurs chapeaux et leurs épées en criant « Vive le roi! Vive la reine! Vive le dauphin !» La musique se mit à jouer « Ô Richard, ô mon roi !» L'allusion que renfermait cette air était devenue tellement transparente, elle accompagnait si bien la pensée de tous, elle traduisait si fidèlement l'esprit de ce banquet que tous, en même temps que commençait l'air, entonnèrent les paroles. La reine, enthousiasmée, oubliait qu'elle se trouvait au milieu d'hommes ivres. Le roi, surpris, sentait bien avec son bon sens habituel que sa place n'était point là et qu'il marchait hors de sa conscience, mais faible et flatté de retrouver là une popularité et un zèle qu'il n'était plus accoutumé de retrouver dans son peuple, il se laissait aller peu à peu à l'enivrement général. Charny, qui pendant tout le repas n'avait bu que de l'eau, se leva pâlissant lorsqu'il aperçut la reine et le roi. Il avait espéré que tout se passerait hors de leur présence, et alors peu importait, on pouvait tout désavouer, tout démentir, tandis que la présence du roi et de la reine, c'était de l'histoire. Mais sa terreur fut bien plus grande encore quand il vit son frère Georges s'approcher de la reine et, encouragé par un sourire, lui adresser une parole. Il était trop loin pour entendre, mais à ses gestes, il comprit qu'il faisait une prière. À cette prière, la reine fit un signe de consentement et tout à coup, détachant la cocarde qu'elle portait à son bonnet, elle la donna au jeune homme. Charny frissonna, étendit les bras et fut prêt de jeter un cri. Ce n'était pas même la cocarde blanche, la cocarde française que présentait la reine à son imprudent chevalier. C'était la cocarde noire, la cocarde autrichienne, la cocarde ennemie. Cette fois, ce que venait de faire la reine, c'était plus qu'une imprudence, c'était une trahison. Et cependant, ils étaient si insensés, tous ces pauvres fanatiques que Dieu voulait perdre, que lorsque Georges de Charny leur présenta cette cocarde noire, ceux qui avaient la cocarde blanche la rejetèrent, ceux qui avaient la cocarde tricolore la foulèrent aux pieds. Et alors, l'enivrement devint tel que, sous peine d'être étouffé sous les baisers ou de fouler aux pieds ceux qui s'agenouillaient devant eux, les augustes hôtes du régiment de Flandre durent reprendre le chemin de leurs appartements. Tout cela n'eût été sans doute qu'une folie française à laquelle les Français sont toujours prêts à pardonner, si l'orgie se fût arrêtée à l'enthousiasme, mais l'enthousiasme fut vite dépassé. De bons royalistes ne devaient-ils pas, en caressant le roi, égratigner un peu la nation? Cette nation au nom de laquelle on faisait tant de peine au roi, que la musique avait le droit de jouer, peut-on affliger ce qu'on aime? Ce fut sur cette terre que le roi, la reine et le dauphin sortirent. À peine furent-ils sortis que, s'animant les uns les autres, les convives transformèrent la salle du banquet en une ville prise d'assaut. Sur un signal donné par Monsieur Perceval, aide-de-camp de Monsieur Destin, le clairon sonne la charge. La charge contre qui? contre l'ennemi absent, contre le peuple. La charge, cette musique si douce à l'oreille française, qu'elle eut cette illusion de faire prendre la salle de spectacle de Versailles pour un champ de bataille, et les belles dames qui regardaient des loges de ce spectacle si doux à leur cœur pour l'ennemi. Le cri « À l'assaut !» retentit, poussé par 100 voix, et l'escalade des loges commença. Il est vrai que les assiégeants étaient dans des dispositions si peu effrayantes que les assiégés leur tendirent les mains. Le premier qui arriva au balcon fut un grenadier du régiment de Flandre. Monsieur de Perceval arracha une croix de sa boutonnière et le décora. Il est vrai que c'était une croix de Limbourg, une de ces croix qui ne sont presque pas des croix. Et tout cela se faisait sous les couleurs autrichiennes en vociférant contre la cocarde nationale. Ça et là, quelques sourdes clameurs s'échappaient sinistrement, mais couvertes par les hurlements des chanteurs, par le vivat des assiégeants, par les éclats des trompettes, ces rumeurs allèrent refluer menaçantes jusqu'aux oreilles du peuple qui écoutait à la porte, s'étonnant d'abord, puis s'indignant. Alors on sut au dehors, sur la place, puis dans les rues, que la cocarde noire avait été substituée à la cocarde blanche et que la cocarde tricolore avait été foulée aux pieds. On sut qu'un brave officier de la garde nationale, qui avait conservé, malgré les menaces, sa cocarde tricolore, avait été gravement mutilé dans les appartements même du roi. Puis on répéta vaguement qu'un seul officier, immobile, triste et debout, à l'entrée de cette immense salle convertie en cirque, où se ruaient tous les furieux, avait regardé, écouté, s'était fait voir, cœur loyal et intrépide soldat, se soumettant à la toute-puissance de la majorité, prenant pour lui la faute d'autrui, acceptant la responsabilité de tout ce qu'avait commis d'excès l'armée, représentée dans ce jour funeste par les officiers du régiment de Flandre. Mais le nom de cet homme, seul sage parmi tant de fous, ne fut même pas prononcé. Et l'utilité, jamais on eût cru que le comte de Charny, le favori de la reine, fût celui-là, justement, qui, prêt à mourir pour elle, eût le plus douloureusement souffert de ce qu'elle avait fait. Quant à la reine, elle était rentrée chez elle, véritablement étourdie par la magie de cette scène. Elle y fut bientôt assaillie par le flot des courtisans et des adulateurs. « Voyez, lui disait-on, voyez quel est le véritable esprit des troupes. Voyez si, quand on vous parle de la furie populaire pour les idées anarchiques, voyez si cette furie peut lutter contre l'ardeur sauvage des militaires français pour des idées monarchiques. » Et comme toutes ces paroles correspondaient au secret désir de la reine, elle se laissait bercer par les chimères, ne s'apercevant même pas que Charny était resté loin d'elle. Peu à peu, cependant, les bruits cessèrent, le sommeil de l'esprit éteignit tous les feux follets, toutes les fantasmagories de l'ivresse. Le roi, d'ailleurs, vint rendre visite à la reine au moment de son coucher et lui jeta ce mot empreint d'une sagesse profonde. « Il faudra voir demain. » L'imprudent, avec ce mot qui, pour tout autre que celle à qui il était adressé, était un sage conseil, il venait de raviver chez la reine une source à moitié tarie de résistance et de provocation. « En effet, murmura-t-elle quand il fut parti, cette flamme enfermée dans ce palais ce soir va s'étendre dans Versailles cette nuit et sera demain un incendie pour toute la France. Tous ces soldats, tous ces officiers qui m'ont donné ce soir de si ardents gages de dévouement vont être appelés traîtres, rebelles à la nation, meurtriers de la patrie. On appellera les chefs de ces aristocrates les subalternes des stipendiers de Pitt et de Cobourg, des satellites du pouvoir, des barbares, des sauvages du Nord. Chacune de ces têtes qui arborait la cocarde noire va être désignée au réverbère de la grève. Chacune de ces poitrines d'où s'échappait si loyalement le cri de « Vive la reine !» sera trouée dans les premières émeutes par les ignobles couteaux et par les piques infâmes. Et c'est encore moi, moi, toujours moi, qui aurais causé tout cela. C'est moi qui condamnerai à mort tant de braves serviteurs, moi, l'inviolable souveraine, qu'autour de moi l'on ménagera par hypocrisie et que loin de moi on insultera par haine. Oh non ! Plutôt que d'être à ce point ingrate envers mes seuls, envers mes derniers amis, plutôt qu'être à ce point lâche et sans cœur, je prendrai sur moi la faute. C'est pour moi que tout s'est fait, c'est moi qui endosserai les colères. Nous verrons jusqu'où viendra la haine, nous verrons jusqu'à quel degré de mon trône le flot impur osera monter. Et la reine, ainsi animée par cette insomnie, chargée de sombres conseils, le résultat de la journée du lendemain n'était pas douteux. Le lendemain arriva, tout assombri de regrets, tout gros de murmures. Le lendemain, la garde nationale, à qui la reine venait de distribuer ses drapeaux, le lendemain, la garde nationale vint, la tête basse, les yeux obliques, remercier sa majesté. Il était facile de deviner dans l'attitude de ces hommes qu'ils n'approuvaient rien, mais qu'ils eussent désapprouvé, au contraire, s'ils eussent osé. Ils avaient fait partie du cortège, ils étaient allés à la rencontre du régiment de Flandre, ils avaient reçu pour le banquet les invitations et les avaient acceptées. Seulement, plus citoyens que soldats, c'étaient eux qui, pendant l'orgie, avaient risqué ces sourdes observations qui n'avaient pas été écoutées. Ces observations, le lendemain, c'était un reproche, c'était un blâme. Lorsqu'ils vinrent au palais remercier la reine, une grande foule les escortait. C'est que, vu la gravité des circonstances, la cérémonie devenait imposante. On allait voir, de part et d'autre, à qui l'on avait affaire. De leur côté, tous ces soldats, tous ces officiers, compromis la veille, voulant savoir jusqu'à quel point ils seraient soutenus par la reine dans leur imprudente démonstration, avaient pris, en face de ce peuple scandalisé, insulté la veille, pour entendre les premières paroles officielles qui sortiraient du château. Le poids de toute la contre-révolution était dès lors suspendu sur la seule tête de la reine. Il était cependant encore en son pouvoir de décliner une pareille responsabilité, de conjurer un pareil malheur. Mais elle, fière comme les plus fiers de sa race, promenant son regard clair, limpide, assuré sur tous ceux qui l'entouraient, amis et ennemis, et s'adressant d'une voix sonore aux officiers de la garde nationale, « Messieurs, dit-elle, je suis fort aise de vous avoir donné des drapeaux. La nation et l'armée doivent aimer le roi comme nous aimons la nation et l'armée. J'ai été enchantée de la journée d'hier. » À ces mots qu'elle accentua de sa plus ferme voix, un murmure partit de la foule. Un bruyant applaudissement éclata dans les rangs des militaires. « Nous sommes soutenus, dit ceux-ci. Nous sommes trahis, dirent ceux-là. » Ainsi, pauvre reine, cette fatale soirée du 1er octobre, ce n'était point une surprise. Ainsi, malheureuse femme, vous ne regrettez pas la journée d'hier, vous ne vous en repentez pas, bien loin de vous en repentir, vous en êtes enchantée. Charny, placé dans un groupe, entendit avec un profond soupir de douleur cette justification, mieux que cela, cette glorification de l'orgie des gardes du corps. La reine, en détournant les yeux de dessous la foule, rencontra les yeux du jeune homme et elle arrêta son regard sur la physionomie de son amant afin d'y lire l'impression qu'elle avait faite. « N'est-ce pas que je suis brave ? » voulait-elle dire. « Hélas, madame, vous êtes plus folle que brave, » répondit le visage douloureusement assombri du comte.